Bonjour à tous, bienvenue à ce culte de reprise à l'église évangélique de Mérin. Alors, rentrons tout de suite dans un moment de louange. Je vous propose de vous lever et puis de chanter le chant 360, une nouvelle création.
Bienvenue.
La louange est finie, quoi, non?
Hein?
La louange est finie?
Ben, ça y est, on peut rentrer à la maison.
Ok, merci d'être venu.
Non, il y en a encore tout plein. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce culte de reprise. C'est super génial, on est beaucoup, et puis surtout, le Seigneur nous attendait ici. Et je crois qu'il nous bénit chacun, je crois qu'il nous attendait, je crois qu'il nous attend chaque matin. Je crois qu'il se réjouit en nous regardant, de voir qu'on est assemblés autour de lui. Et puis, c'est ce qu'on veut vous inviter à faire, c'est avoir nos regards sur le Seigneur ce matin. C'est lui dire, oui, je t'appartiens, oui, je suis heureux d'être avec toi, c'est beau d'être en famille, c'est beau d'être en église, merci parce que tout ce qu'on peut vivre ici, tout ce qui nous attend, la joie et le repos, plus la condamnation, tout ça, c'est un cadeau de sa part, magnifique cadeau. On voulait commencer avec quelque chose de hyper, super important ce matin, à savoir
les enfants.
Les enfants. Il y en a quelques-uns des enfants ce matin, je crois. Arnaud qui est arrivé hyper tôt parce que son papa, il a dû faire la répétition. Mais t'es pas fatigué. Non. Non, il a l'air bien. Il est de bonne humeur. Et ce qu'on aimerait faire, on aimerait bien inclure les tout-petits, on aimerait bien avoir tous les enfants ici devant, s'il vous plaît. Et puis, si jamais vous avez un petit qui est un petit peu timide, venez avec. Si vous avez des grands qui osent, envoyez-les. Et puis, on aimerait commencer cette année scolaire ou cette rentrée de l'Église pour nous en faisant, vous souvenez, l'an passé, on avait fait un petit quiz des prénoms. Pour voir si vous connaissez bien nos enfants, parce que c'est les enfants de notre église, donc ils sont à nous, et puis c'est à nous tous de s'en occuper, et puis c'est à nous tous de leur transmettre aussi ce qu'on a de plus précieux dans le cœur. Alors, ce qu'on va faire, Johan, si tu veux bien, peut-être on va descendre d'un cran, et puis on va voir si vous connaissez bien les prénoms. Vous êtes prêts? Bon, alors je ne vais pas dire les prénoms exprès parce qu'on va les faire deviner. Viens voir avec moi, s'il te plaît. On commence par toi. Et puis, tu grimpes juste ici. grimpe, vas-y. Hop. Comment s'appelle ce magnifique jeune homme ? Victor, t'as vu, tout le monde te connaît. Ouais. Victor Lerèche, avec le papa à côté, si jamais, là-bas, avec la chemise bleue, l'autre. Super, merci. Tu viens avec moi, on va grimper. Super. Tiens, tu l'aides un petit peu à grimper ou tu arrives à grimper tout seul ? 1, 2, 3, hop ! Ça y est, regarde. C'est super que tu sois là. Tu connais tous ces gens ? Pas tellement. Hein. Comment ils s'appellent ?
Liam.
Liam. Ouais, mais c'est tous ses copains qui ont répondu. C'est du chiquet, hein ? Alors, je compte sur vous pour la suite. Bienvenue, Liam. Alors les enfants, chut, c'est un secret, on va voir si les grands, ils arrivent aussi bien que vous, d'accord ? C'est le grand frère de Liam et il s'appelle Elio. Il est aussi magnifique, hein ? Ils sont tous magnifiques. Merci beaucoup. 1, 2, 3, wouh ! Au suivant. Il grimpe tout seul, il est super autonome, il est aussi magnifique, il s'appelle... Arnaud, alors j'ai une grand-maman avec un sourire jusqu'aux oreilles, fier, et il y a de quoi, hein ? Ouais, franchement. À nous, un grand, grand. Vas-y, grimpe. Ha ha. Tu connais un peu du monde ici, toi ?
Oui.
Ah, donc, logiquement, il s'appelle... C'est juste, t'appelles... Salut Josué, enchanté. Moi, je m'appelle Xavier, ça me fait plaisir de te connaître. Super, c'est Josué. Merci. Au suivant. Tu viens avec moi. S'il te plaît. T'as pas envie ? Alors, il a des magnifiques yeux, il a les cheveux tout courts. Il a beaucoup de sœurs. Il s'appelle... C'est vrai, tu t'appelles Mathéo ? Ouais. Il s'appelle Mathéo et puis l'année prochaine, il grimpera ici. À la suivante. Alors, et vous pouvez tout de suite vous préparer psychologiquement parce qu'il y en a une série, alors ça va durer un sacré moment. Hein, donc, comment elle s'appelle cette magnifique demoiselle ? Tu t'appelles Esther ?
Oui.
Ah, alors Esther, on fera peut-être un quiz à la sortie, alors vous mémorisez bien. Hein, Esther, c'est parti, merci beaucoup. Bonjour mademoiselle. Alors, Noélia, elle s'appelle. Quelqu'un connaît ? Qui connaît Noélia ? Sylvie, 2, 3. Ah, tout le monde maintenant, hein ? Voilà. Bienvenue Noélia. Super. Merci beaucoup. Ah, moi je te connais aussi. Ah, celui-là là. Notre copain, il s'appelle. Ilan, merci beaucoup. Au suivant. Alors, s'appelle Raphaël, c'est juste ?
Oui.
Ouais, c'est cool. Maintenant, tout le monde connaît Raphaël. Hein ? Vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était Esther, c'est Raphaël. Vous vous souvenez, hein ? Contrôle surprise à la sortie. Merci beaucoup, Raphaël.
Puis attention, le deuxième tour, c'est avec les noms de famille.
Ouh, t'es grande. Ouais. T'es magnifique aussi. Comment, candidate pour le caté ? Comment s'appelle cette jolie demoiselle ? Elisabeth ! Une fois, deux fois. Tout le monde se souvient, Elisabeth, c'est bon ? Bienvenue, Elisabeth. C'est cool. Toi, t'aimerais pas ? On en était où ? Ah, on en était là. Viens voir, grimpe. Bonjour, ça va ?
Oui.
Moi aussi. Je suis content que tu sois là. C'est chouette. Comment s'appelle cette demoiselle ? Inka.
C'est beau ça ?
Ça, c'est beau. Je connais aucune autre. Inka, t'es la seule. C'est super. C'est mémorisé, c'est bon ? Cool, au suivant, à la suivante.
Viens avec moi. 5 secondes.
Oh, t'as mis une belle robe ce matin. Ouais. Et là, Zélie. J'allais presque dire Naëla parce que je me suis mélangé les pinceaux. Hein. C'est Zélie. Cool. Quand j'étais petit, ça m'énervait quand on m'appelait par le prénom de mon frère, du reste. Tous les gens à l'église, ils faisaient ça. Ah, bah tiens. Simon. Ouais, Simon qui se trouve être le fils de quelqu'un qui vous sera présenté tout soudain. Bienvenue, Simon. Tu peux aller te rasseoir. Merci beaucoup. Ensuite,
tu veux venir avec moi, madame?
Tu viens? On monte juste 5, un tout petit. Tu veux venir? Tu veux venir avec ton papa?
On y va.
Bah, prends-le.
Tu montes?
Ou tu le prends dans les bras, comme tu veux. Ouais, t'as raison, il ne faut pas venir avec un monsieur que tu ne connais pas qui te dit viens avec moi. Ça, t'as raison. Il est magnifique, hein? Ouais, il s'appelle. Il s'appelle Jules? Jude. Salut Jude, bienvenue. Quand on se connaîtra mieux, je te ferai un petit bisou là, peut-être. Tu peux aller te rasseoir. Bienvenue, merci. La suivante.
Non, d'abord ma copine, ma sœur, etc.
Allez-y ensemble, vous pouvez y aller ensemble exceptionnellement. Où les...
Comment vous appelez?
Ah, la chef.
Mathilde.
Mathilde. Et toi? C'est ta sœur. Elle s'appelle comment?
Margot.
Margot et Mathilde.
La suite. Ouais, viens avec ta sœur, elle a la trouille. Parce qu'au camp de la Drôme, je lui ai fait peur en tapant sur une guêpe. Alors depuis, elle se méfie. Salut, t'as un super collier. Elle s'appelle Lydia. Elle a, là aussi, il y a 2-3 grands-parents avec des sourires jusqu'aux oreilles. Merci Lydia, bienvenue. Voilà, on a fait connaissance, on peut continuer. Who's next? Pardon? Zoé! Bienvenue, Zoé. Merci beaucoup. À la suivante, s'il vous plaît. C'est vachement long, hein? Eh bien, chaque fois qu'il y a un enfant qui monte là, on peut dire merci, Seigneur Jésus, pour les enfants que tu nous accordes dans cette église. Et c'est super. Moi, j'aimerais bien que ça puisse durer 3 heures, tellement c'est chouette. Salut, ça va? Comment elle s'appelle? Naëla. Tout le monde connaît Naëla aussi, super. Merci beaucoup, bienvenue. Nekrst, bitte schön. Hodge. Hey, hoi. Ayana. Ça commence à, le quiz, ça commence à s'emmagasiner, c'est bon. Il y a pas mal de prénoms. Bienvenue, Ayana. Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir puis nous envoyer ta petite sœur. Home schnau. Ah, t'es chouette comme tu l'es. Alors toi, t'as grandi, hein, parce que il n'y a pas longtemps, je t'ai emmené faire une promenade dans une poussette. Tu tenais même pas debout. Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est la petite sœur d'Ayana. Lily! T'as vu, tout le monde te connaît, c'est cool. Bienvenue, Lily. Tu peux aller te rasseoir. Merci. Oh, t'es grand, toi aussi. Salut. Ça va? Bienvenue. Comment il s'appelle?
Isaac.
Il s'appelle Isaac. Bienvenue, Isaac. Super. Il y a un autre Isaac. Où est-ce qu'il est? Ah, un modèle réduit, tout au fond. On a fait le tour de tous les enfants? On n'a oublié personne? Ouais, il y a peut-être un ou deux timides, mais si vous restez pour l'apéro, vous pourrez les croiser.
Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse venir aussi les moniteurs, parce qu'on s'occupe des enfants, et donc il y a des moniteurs. Donc on a une première partie avec Minicelle pour la garderie, avec Lauriane et Charline. Et ça, c'est les 0-4 ans, juste avant l'école. Ensuite, il y a les moniteurs qui s'occupent des potes. Les potes, il y a deux groupes, c'est 4, 7 et 8, 10. Et puis ensuite, il y a le caté pour les 11-15. Et puis, il y a le groupe de jeunes CTT. Oui, mais il est pris par les réseaux sociaux. Et puis le CTT avec deux représentantes des responsables, 15-25 ans. Et puis après, on est considéré comme moins jeune. Voilà. Merci.
Alors, je pense qu'on a un chant à chanter
oui.
Avec les enfants, les monitrices et moniteurs. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place. Et puis, on va reprendre un chant que connaissent bien. Qui c'est qui était au camp de la Drôme, là, ici? Levez voir la main. Vous pourriez venir, les enfants qui étaient au camp de la Drôme, vous pourriez venir devant avec Charline et Lauriane. Puis on va en faire un que vous connaissez bien. Je range mon micro. Voilà. Alors. Le
141.
Faut que je rebranche mes partitions. Le camp de la Drôme, qu'est-ce que c'est? C'est un camp qui avait été fondé par Jean-Jacques Mélan, pour ceux qui savent encore qui c'est, de l'église pasteur de l'église de Mère en son temps, il y a 25 ans, 30 ans, au chêne de Mamré, dans la Drôme. Ça a changé de main. Ça a été dignement présidé par nos amis de l'église de la Colline et de Aigle pendant de nombreuses années. Ils ont repassé la main, et puis c'est une super semaine, et c'est toujours rempli, les inscriptions très très rapidement, dès le mois de janvier. Si vous voulez participer, il faut vous inscrire très vite, et c'est génial. Et on a eu le plaisir de se retrouver avec des participants de plusieurs églises dans ce camp-là, et puis il y avait des moniteurs qui prennent les enfants en charge, et puis les enfants, ils ont appris un chant, et il y a des gestes qui vont avec. On a deux coachs, si jamais on a oublié. Et puis, on va vous l'apprendre. On va vous le chanter une fois, puis après, on pourra le faire ensemble. Vous êtes prêts?
De joie pour le roi des rois. Tape avec tes pieds, pourquoi pas danser? Tu peux même sauter pour le célébrer.
Ça va? Vous l'avez assimilé aussi, après toute la série de prénoms, vous avez aussi assimilé un chant. On le reprend une fois tous ensemble? C'est parti. Merci, on peut se rasseoir un petit moment, puis les enfants, juste avant que les tout petits descendent à Minicel, donc les 0-3 ou les 0-4 à Gardry, je cède la parole à Claude.
Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, et avant tout, il est notre Créateur. Alors nous allons penser à lui et demander sa bénédiction sur chacun des enfants et des moniteurs. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as créé ces enfants par la délégation des parents, aussi variés que les fleurs dans un beau jardin. Tu as béni chaque enfant d'une manière unique quand tu étais parmi nous. Et nous te demandons que cette bénédiction suive chacun et chacune dans cette année et qu'arrive le miracle de l'amour de toi dans les cœurs. Les grands et les petits, bénis les moniteurs et les monitrices, bénis Minicel, aussi les plus petits, que tu les protèges et les gardes dans leur fragilité en pleine croissance. Nous savons, Seigneur, c'est précieux à tes yeux la vie de chacun et chacune. Nous te louons et les recommandons à ta bénédiction. Amen.
Voilà, alors l'équipe 0, c'est 04, hein, 04. Enfin, tous ceux qui ne sont pas encore scolarisés, voilà, peuvent suivre Charline et Lauriane, à qui on dit un grand merci au passage. Et c'est parti. Et puis nous, on va continuer notre moment de louange ensemble. Allez, c'est parti.
Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a détruit tous ses plans, Satan a perdu son rang. Jésus, au-dessus de tout esprit méchant, nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité
Jésus, car c'est le nom du salut.
Amen, Seigneur Jésus, nous élevons ton nom et nous voulons proclamer que tu es le roi de nos vies, nous voulons proclamer que c'est toi qui nous a rencontrés, c'est toi qui nous a sauvés, c'est toi qui nous donne la vie chaque jour, c'est toi qui nous accompagne dans les beaux moments, c'est toi qui nous accompagne dans les difficultés, dans la douleur, tu es présent à chaque instant. Seigneur Jésus, béni soit ton nom parce que tu es fidèle chaque jour. Je viens dans ta présence. Qu'on puisse chanter ce prochain chant dans la pleine conscience qu'on se présente devant notre Seigneur, qu'on est là pour lui et qu'il nous accueille.
Je reconnais ta majesté.
pouvez vous rasseoir. J'invite Céline à me rejoindre. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui, 1er septembre, Céline qui commence son stage pastoral. Et je te laisse la parole.
Merci. Bonjour à tous. Salut. Je vous présente mon ouistiti, c'est Simon. Enfin, bref, on est très heureux d'être avec vous pour commencer mon année de stage. Je vous remercie d'ailleurs de me laisser cette opportunité de formation parmi vous. J'ai vraiment le désir de me laisser travailler aussi par rapport à tout ce que je vais pouvoir vivre aussi entre les mains du Seigneur dans cette année. Et puis d'être à l'écoute de Dieu par rapport à un futur ministère. Et puis voilà, écouter Simon bien sûr. Et donc enfin je vous remercie énormément. J'espère que j'aurai l'occasion de vous côtoyer tous, d'apprendre à vous connaître et puis de faire un bout de chemin avec vous pendant cette année. Merci à vous. Et puis si jamais c'est mon mari Joël.
Alors j'aimerais juste prier pour Céline et sa famille. Dieu Père, nous voulons te remercier de donner l'opportunité à des personnes de vouloir s'investir, de vouloir transmettre la parole de Dieu, de vouloir voir l'avancée de ton et participer à l'avancée de ton royaume. Et on aimerait vraiment te remettre Céline dans ce stage durant cette année, qu'elle puisse découvrir le rôle de pasteur, ce métier de pasteur. Et on aimerait aussi te remettre sa famille qui l'accompagne et qui la soutient. Que tu les bénisses richement par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Merci. Alors, les enfants, vous pouvez aussi rejoindre vos groupes maintenant. Et puis on passe encore un chant.
Voilà, on va prendre un dernier chant avant de se lancer dans les lectures, auquel il faudra être très attentif, sinon on n'arrivera pas à suivre la prédication. Et je vous invite à vous lever pour ce dernier chant.
Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Alors le texte que nous lirons est dans Matthieu 16, les versets 13 à 25. Arrivé dans la région de Césarée et de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples.
Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme ?
Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit,
et vous, qui dites-vous que je suis ?
Prenant la parole, Simon-Pierre répondit,
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara,
« Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre. » Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux.
Alors, il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressuscité. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant
« Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, non, cela ne t'arrivera pas. »
Mais lui, se retournant, dit à Pierre,
« Retire-toi, derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Alors, Jésus dit à ses disciples,
« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » En effet, qui veut sauvegarder sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi l'assurera.
Bonjour à chacun, à chacune. Jésus dit donc, Jésus a dit dans ce texte que nous avons lu en Matthieu 16, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et nous disons, nous avons construit notre église. Nous rénovons la chapelle. Nous prenons soin de ce bâtiment. Nous l'embellissons. Regardez ces magnifiques vitraux préparés et installés par Éléonore. Nous en prenons soin. Chaque semaine, il y a une équipe d'entretien des locaux qui vient nettoyer les lieux. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Nous disons, nous avons construit notre église. Nous disons, nous rénovons la chapelle. Ah, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je bâtirai mon église. Jésus, lui, parlait d'une construction spirituelle. Et nous, souvent, nous parlons d'une construction matérielle. C'est qu'avec le temps, les mots changent. Par exemple, une école de pensée n'a pas d'adresse postale. Mais l'école de Mérin Village en a une. L'église que Jésus bâtit ne se trouve pas sur Google Maps. Mais l'église évangélique de Mérin, oui. Cela fait partie de la complexité des langues vivantes. La langue française, elle est ce qu'elle est, et c'est pas nous qui allons la changer. Encore moins, allons-nous dire qu'une communauté chrétienne ne doit pas avoir de lieu à elle. Nous sommes faits, nous autres, pour vivre sur cette terre. Nous sommes faits pour vivre dans un univers matériel. Et partout, les êtres humains s'aménagent des lieux de vie. Un appartement, une maison, une chambre d'ado, une cuisine où monsieur ne met pas les pieds, sauf pour faire la vaisselle, et encore. Une exploitation agricole, une ferme, avec des lieux pour les bêtes, des lieux pour les machines, des lieux pour les hommes et les femmes. Une usine, avec différents ateliers. Une école, avec différentes salles de classe. Une église, avec différentes pièces. Au premier siècle, les chrétiens n'avaient généralement pas de locaux dédiés. Alors, ils se réunissaient dans des maisons. Et pour de grandes églises, il fallait de grandes maisons. À Éphèse, l'apôtre Paul a loué l'école de Tyrannus pour y enseigner. À l'époque des persécutions, les chrétiens se réunissaient plus dans des maisons, mais dans des souterrains à Rome, dans les catacombes. Un bâtiment dédié, un bâtiment identifié, avec une croix dessus, par exemple, ce n'est pas indispensable. Mais c'est une expression naturelle, normale de notre humanité. Et c'est l'expression de notre foi. Est-ce que vous imaginez, vous, un hôpital qui serait dispatché dans des maisons? Est-ce que vous imaginez le Conseil national se réunir ici et là dans différents foyers sans jamais se retrouver? Que les chrétiens aient des bâtiments, c'est donc normal. Dire « nous bâtissons notre église » et y mettre les moyens, cela fait partie de notre mandat à Mérin. Être là, matériellement, concrètement, être identifié à un lieu, cela fait partie de notre mandat à Mérin. Mais la communauté humaine précède toujours le lieu, comme le mariage qui précède la maison. D'abord les gens, ensuite les pierres. Mais des communautés spirituelles, des églises, il y en a de toutes sortes, n'est-ce pas? Que voulait dire Jésus quand il a dit, lui, « je bâtirai mon église » ben déjà, il utilise le mot au singulier, « mon église ». S'il avait utilisé le pluriel, « je bâtirai mes églises », eh bien, assez naturellement, nous aurions pensé à Antioche, à Éphèse, à Corinthe, ou à Mérin, à Colonie, à Crissier. Mais au singulier, quand Jésus dit « je bâtirai mon église », il ne peut s'agir que d'une communauté unique. Une communauté unique. Pour les 12 disciples, ils pouvaient faire le rapprochement avec la communauté d'Israël, réunie devant Dieu dans le désert. Pour les premiers lecteurs de Matthieu, pour les habitants de l'Empire grec, ils pouvaient penser aux différentes assemblées qui se constituaient dans les villes grecques de l'époque, des petites communautés, un peuple réuni, une petite assemblée, ou à d'autres endroits, un troupeau conduit par un seul et même berger. Cette église, il n'y en a qu'une. Elle est unique. Cette église, elle transcende l'espace. Elle n'est pas limitée par la géographie. Elle se moque des frontières, elle se moque des continents. Cette église, elle transcende les étiquettes, les dénominations, les appellations, les marques déposées. Cette église, elle transcende le temps, depuis la Pentecôte jusqu'à la fin du monde et au-delà. Et en face de cette église, il y a une puissance adverse. Les portes du séjour des morts, dans les anciennes traductions. La mort elle-même, dans la dernière révision de la Semeur. Les portes du séjour des morts. La mort elle-même, qui ne prendra jamais le dessus, jamais le dessus, sur l'Église unique que Jésus bâtit. Je sais que les formes et les modes dans nos églises évangéliques changent. Il y a 20 ans, nous n'aurions pas commencé le culte comme nous l'avons commencé ce matin. Et dans 20 ans, nos enfants, nos petits-enfants, ne commenceront pas le culte comme nous l'avons commencé ce matin. Les formes et les modes changent. Les églises locales, la nôtre y compris, les églises locales naissent un jour. Elles grandissent ou elles stagnent. Parfois, les églises locales explosent. Parfois, elles meurent. Au début du livre de l'Apocalypse, il y a 7 lettres qui sont envoyées à des églises locales, avec des mises en garde ou des encouragements solennels. Plus aucune de ces 7 églises n'existe aujourd'hui. Plus aucune des églises auxquelles l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, Jacques, Jude ont écrit dans le Nouveau Testament. Plus aucune de ces églises locales n'existe aujourd'hui. Les églises locales naissent. Elles grandissent. Parfois, elles stagnent. Elles meurent. Mais pas l'Église universelle que le Seigneur bâtit. Même la mort ne peut rien contre elle. Elle est invincible parce que son chef est invincible. Cela montre que l'Église a bien une dimension spirituelle cosmique, une dimension qui nous dépasse et qui ne peut pas être contenue dans nos raisonnements, dans nos comparaisons, dans nos classements, dans nos bouquins, dans nos articles. Ça nous dépasse, l'Église. Dans quelques instants, je vais essayer de tirer 2 conclusions très pratiques à ça. Mais avant, j'aimerais juste encore noter sur quelle base, sur quel fondement Jésus bâtit l'Église. Est-ce que Jésus bâtit son Église sur une base nationale, ou ethnique, ou raciale, comme par exemple le peuple d'Israël? Est-ce que Jésus bâtit son Église sur l'appartenance à une sorte d'élite de citoyens libres, comme dans les villes grecques? Il n'y a aucune place ni pour le nationalisme, ni pour l'élitisme dans l'Église que le Seigneur bâtit. Qui fait partie de l'Église? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, dit-il à Pierre. Quelle pierre? L'apôtre Pierre, en français comme en grec, c'est un nom masculin. Petros, si vous voulez faire savant. La pierre, en français comme en grec, ben c'est un nom féminin. Petra. Il y a manifestement un jeu de mots autour du nom ou du surnom de Pierre, Cephas. Jésus, donc, joue sur le nom que tout le monde connaît à l'époque. Il fait un jeu de mots. Très vite, pour les auteurs chrétiens du 1er siècle, la pierre de fondation de l'Église, ce qui nous faisait appartenir à l'Église, c'était soit la confession de foi, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », soit la personne du Christ lui-même, qui à d'autres endroits dans la Bible est appelée la pierre angulaire. Nous sommes donc en bonne compagnie. Si nous disons, nous aujourd'hui encore, que l'Église est fondée sur la foi en Christ, ou sur la reconnaissance de Jésus comme étant lui le Messie, le Sauveur promis, le Seigneur. Mes amis, il n'y a pas d'Église et il n'y a pas de communion en Église s'il n'y a pas de foi en Christ. On pourrait être encore un peu plus précis en allant vers la fin du passage qu'on a lu, au verset 21. C'est la foi en Jésus, le Messie, qui souffre, qui meurt, qui ressuscite pour nous sauver de nos péchés. Je sais que certains vont dire, en particulier dans nos milieux évangéliques, que dire que ce qui fonde l'Église, c'est la foi en Christ seul, certains vont dire qu'il y a là un bien petit dénominateur commun. Moi, j'affirme qu'il n'y a pas plus grand comme dénominateur commun que celui qui bâtit son Église. C'est bien plus qu'une conviction intellectuelle. C'est quelque chose que l'on vit fort. C'est quelque chose qui impacte tous les aspects de la vie. C'est un engagement de disciple qui renonce à ses propres intérêts. C'est un engagement de disciple qui met Christ en premier. C'est un engagement de disciple qui sait que devant les puissances adverses, sa propre vie pourrait être mise en jeu. L'Église universelle se compose ainsi de personnes liées à Jésus-Christ dans la vie et dans la mort. Des personnes qui incarnent les valeurs du Christ dont elles ont été l'objet. La grâce, le pardon, l'amour. Et l'apôtre Pierre, alors, il compte ou pas? Bien sûr qu'il compte. Mais peut-être pas tout à fait comme on imaginerait. Au cours de l'histoire, dans le souci de préserver l'unité de l'Église en tant qu'organisation visible, on en est venu à dire que l'Église se rassemblait autour de Pierre et de ses successeurs, devenus les évêques de Rome. Pour la moitié de la civilisation méditerranéenne, parlant latin, ça allait très bien, ça. Ils avaient l'habitude de s'en référer à Rome pour les affaires civiles, ils pouvaient très bien le faire pour les affaires spirituelles, pas de problème. Mais pour l'autre moitié de la civilisation méditerranéenne, cela, ça n'allait pas du tout. Parce que ces gens-là, ils parlaient grec, ils parlaient copte, ils parlaient syriaque, ils parlaient arménien, ils s'organisaient autour de grands pôles, comme Antioche ou comme Alexandrie. Une église qui dépendrait d'un seul chef à Rome, ils n'en voulaient pas. Pour finir, cela a fait la grande division entre ceux qu'on appelle aujourd'hui les catholiques romains et les orthodoxes. D'où est venue cette difficulté? Eh bien, sans doute du fait que Pierre lui-même a joué un rôle de premier plan tout au début. Souvenez-vous, hein, le porte-parole des douze, le tout premier à confesser Christ explicitement. Jésus qui lui confie la tâche d'ouvrir les portes de l'Église aux Juifs le jour de la Pentecôte, puis aux Samaritains quelques années plus tard, et encore aux Romains et aux païens un peu plus tard. De plus, Pierre a une charge d'enseignement non négligeable, comme les autres apôtres d'ailleurs, pour distinguer le vrai du faux. Cette charge, il l'a exercée entre autres dans les premières années de l'Église de Jérusalem, en écrivant deux lettres qui nous sont parvenues, en fournissant à Marc tous les éléments nécessaires à la construction de son évangile. Pierre, c'est quelqu'un, Pierre. Il peut se tromper, on est d'accord. Hein. Tenez, ici, Jésus le traite même de Satan. Il peut renier son maître, Pierre. Il peut se laisser entraîner dans l'erreur à Antioche, après pourtant avoir reçu le Saint-Esprit. Il se plante complètement et l'apôtre Paul doit le reprendre. Pierre, c'est quelqu'un. Et Dieu s'est servi grandement de lui. Et l'apôtre Paul dira que l'Église a comme fondement les apôtres, qui sont les prophètes de la Nouvelle Alliance, et que Jésus-Christ est la pierre d'angle. Éphésiens 2, versets 20 à 22. Les apôtres, dont Pierre, ont joué un rôle unique, et le fondement qu'ils ont posé ne se réinvente pas. Nous bâtissons à partir de là. Nous faisons fructifier un héritage phénoménal qui est à comprendre dans un contexte, qui est à actualiser, qui est à adapter. Mais le fondement est posé. Alors sur quoi l'Église est fondée? C'est assez macronien. Mais on peut dire que c'est en même temps sur la foi en Christ. Une foi personnelle, une foi engagée, une foi qui se mouille, et sur l'action et l'enseignement des apôtres. Je conclus avec deux conséquences importantes à mon sens. La première conséquence importante, c'est que nous ne pouvons pas négliger l'Église locale. Croire à l'Église universelle ne nous dispense pas d'appartenir à une Église locale. Deux fois le mot Église apparaît dans l'Évangile de Matthieu. Une fois ici, dans le texte qu'on a lu, pour décrire l'Église universelle, « Je bâtirai mon Église », et une fois en Matthieu 18, pour parler d'une Église locale. Dans les actes, dans les épîtres, nous découvrons des églises locales. Et c'est l'usage le plus courant du mot église dans les actes comme dans les épîtres. Dans l'Apocalypse, nous avons en même temps sept églises locales qui se trouvent toutes dans la région d'Éphèse et l'église cosmique, l'épouse du Christ, la nouvelle Jérusalem, les saints rassemblés auprès de leur Sauveur déjà. Je sais que pour certains chrétiens, une église locale où on est obligé de composer avec des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne chantent pas comme nous, qui ne se déplacent pas comme nous, c'est juste insupportable. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas de contraintes, qui n'acceptent pas l'idée de se soumettre les uns aux autres. Ils n'ont pas envie de se laisser instruire, contredire, remettre en question pour aller plus loin. Quand les premiers ermites ont décidé de se retirer du monde pour vivre leur foi seuls, dans des endroits désertiques, parfois sur des poteaux, ils se sont attirés une critique tout à fait fondée. Comment pouvez-vous mettre en pratique le commandement « Aimez-vous les uns les autres » si vous ne vivez pas avec les autres? Et aujourd'hui, nous rencontrons des chrétiens qui disent à peu près ceci. J'aime bien l'Église universelle. J'aime bien l'Église invisible. Mais je n'aime pas les églises visibles. À tout prendre, Internet me suffit. Le culte en direct de telle super communauté à Genève ou à Mulhouse, ça me suffit. Et puis, de toute façon, je peux entretenir ma relation à Dieu tout seul, tu sais, je prie. Comme d'autres qui pourraient dire, j'aime l'humanité, Ce sont les gens que je ne supporte pas. Je bâtirai mon Église. L'Église universelle se décline en une multitude d'églises locales, visibles, imparfaites, fragiles, diversifiées. On n'a pas le droit de zapper l'Église locale. La nôtre, toute imparfaite qu'elle soit, nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous nous y investissons. Nous cherchons son bien d'une manière ou d'une autre. Et on n'a pas les mêmes forces à 15 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans ou à 80 ans. 90. Et plus, j'espère. Mais quel que soit l'âge, nous l'aimons et nous nous y investissons. L'Église locale manifeste localement le plan, le projet global de Dieu. Qui a fait une école de marketing, école sub de com ici? Il y en a quelques-uns. Qui peut me dire le mantra de Coca-Cola? Ça fait ses preuves, hein, Coca-Cola, avec le temps, on peut dire. Think globally, act locally. Pense globalement, agis localement. Une deuxième conséquence, et je conclus. Une deuxième conséquence de la volonté de Jésus de bâtir une église locale, c'est que nous devons nous soucier, nous aussi, de l'Église universelle. Jésus a aimé l'Église universelle et s'est donné pour elle. C'est pas rien. Ben nous aussi, on doit l'aimer. Avec la même générosité et la même exigence que lui. C'est pour ça que nous nous intéressons à ce qui se passe dans d'autres pays, sur d'autres continents, partout dans le monde. C'est pour ça que nous donnons de la place à nos envoyés, aux groupes missions, aux projets de l'AFRE, à l'œcuménisme au plan local. Mais à cause de la grande diversité des communautés chrétiennes, les relations sont encore plus compliquées que dans une seule église locale. On peut changer d'église locale, certains le font, mais les frères et sœurs de l'Église universelle, on doit apprendre à faire avec. Je me souviens d'images que j'ai vues à la télévision il y a quelques années. C'était un campement de réfugiés à Calais, dans le nord de la France. Et on voyait dans ce campement de réfugiés des chrétiens irakiens et syriens qui célébraient leur culte dans une espèce de cabane avec une ou deux icônes. Bien en évidence. Le culte de Marie et des saints, pas trop notre truc, hein. Des statues, des icônes pour l'évangélique moyen, plutôt des idoles. Alors ces gens-là, ils étaient mes frères et sœurs en Christ ou des païens idolâtres? Je constate qu'ils ont dû fuir à cause du nom de Christ. Ceux que Daesh ou Al-Qaïda ont tués ne sont pas morts pour la Vierge, hein. Ils ne sont pas morts pour la liturgie, ils ne sont pas morts pour Rome, mais ils sont morts pour le nom du Christ, comme des chrétiens. Si l'ennemi nous unit dans la mort, qui sommes-nous pour nous diviser dans la vie? Des relations interconfessionnelles sont compliquées, exigeantes. L'œcuménisme, ça demande beaucoup, mais ça vaut le coup. Il est utopique de penser que nous allons tous nous retrouver d'ici un siècle ou deux dans une seule et même structure d'église visible. Mais nous pouvons aimer ceux qui sont nos frères et sœurs en Christ. Nous pouvons prier pour eux, prier avec eux, confesser ensemble « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » et à partir de là, envisager des choses en commun. Notre unité est imparfaite. Mais si l'Église est une, Je ne peux pas me désintéresser, moi, de celles et ceux qui en font partie. Je leur reproche certaines choses, je les admire pour certaines choses, je suis perplexe sur certains points. À tour de rôle, je me rapproche d'eux, je prends un peu mes distances, je les défends ou je les critique. Comme cela peut se faire dans une famille, entre frères et sœurs. On s'encourage, on se stimule, on se complète et on garde le Christ au centre pour que son salut soit manifesté. Je conclus. Nous bâtissons et nous bâtirons notre Église ensemble. Nous l'entretenons et nous avons besoin de chacun, de chacune, pour l'entretenir, l'Église locale. Nous y mettons du cœur. Nous y mettons même des moyens financiers. Des hommes et des femmes s'engagent. Et puis nous bâtirons notre Église. Une communauté locale fondée sur le Christ et avec le Christ au centre, unie dans l'amour, engagée dans le service, généreuse dans la concrétisation des valeurs du royaume de Dieu, appliquée dans la manifestation des dons de l'Esprit, ouverte sur l'extérieur et toujours respectueuse de la diversité. Parce que c'est ainsi que Christ bâtit son Église pour le temps et pour l'éternité. Amen.
Il faudrait presque une semaine pour digérer tout ça, puis pour le revoir. Merci Philippe, c'est interpellant. Et je crois que ça vaut la peine de respirer un coup profondément, de réfléchir à ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a beaucoup de clés. Je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles le Seigneur il leur a dit « Ouais, Philippe, exactement ». Merci de dire ça. Je suis persuadé. Parce que c'est un message de paix, d'amour, d'édification. Et c'est le plan de Dieu. C'est ce qu'il veut pour son Église. C'est pas qu'on se tire les cheveux ou qu'on se batte sur des futilités. C'est l'unité en lui. Notre Père, on va chanter le Notre Père. Je vous propose de le chanter ou de ne pas le chanter en toute liberté, de le penser, de le prier dans votre cœur en restant assis ou de le chanter assis ou debout. Mais gardons dans notre cœur ce qui a le message qui nous a été apporté et puis adressons cette prière à notre Père dans les cieux.
Et
Le même Christ qui a dit « Je bâtirai mon Église » nous invite à un repas dont la fonction est de nous donner la force pour la route. Le Christ, c'est en lui exclusivement que nous sommes un. Mystérieusement, maintenant, nous allons participer à un repas que bien d'autres dans l'univers prennent. De toutes les races, de toutes les langues, de toutes les cultures, ceux auprès du Seigneur, comme nous sur la terre des vivants. C'est en Christ que nous sommes un, de la même fournée que le Christ, dira Luther. Nous ne pouvons communier avec Christ, participer à sa table, que tous ensemble. Nous ne pouvons l'accueillir et participer avec lui à son règne que tous ensemble. Je bâtirai, ça veut dire que c'est inachevé. Nous sommes en route vers un pays où son règne est parfaitement manifesté. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, c'est toi la source de la vie, c'est toi la source de l'amour, le salut du monde. Voici le pain et le vin que ton souffle vivant nous donne. Communion à la réalité et à l'alliance nouvelle de ton Fils, Jésus, le Messie. Tu sais notre faiblesse. Nous te demandons, fais venir sur nous un souffle de renouveau, sur chacun et chacune d'entre nous, que rien ne nous écrase dans le lien au Christ, ni la peur, ni la mort, ni le passé, ni l'avenir, ni le péché. Fais de nous des hommes, des femmes, vivants dans l'espérance de l'Évangile, au service de nos frères et de nos sœurs. Alors, Seigneur, pendant ce repas, nous nous souvenons que c'est toi qui as convoqué tes disciples pour annoncer ta mort. Mais nous proclamons aussi ta résurrection, toi qui étais crucifié. Nous attendons ton retour. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Nous écoutons les paroles de l'institution par le Seigneur lui-même dans l'Évangile.
Le Seigneur Jésus, la nuit même où il fut trahi, prit du pain dans ses mains et le rompit. Puis il dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
Nous te bénissons et te remercions, Père, car tu as réconcilié l'humanité et l'univers en ce seul corps, dans cette réalité. Nous te bénissons.
De la même manière, à la fin du repas, il prit la coupe de vin et dit « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la réconciliation, le sang de la réconciliation versé pour tous, faites ceci en mémoire de moi. »
Nous te bénissons et te remercions, Père, car tu as réconcilié l'univers, l'humanité, au prix de la mort de ton Fils, qui nous a appris ce que aimer signifie. Merci de nous mettre au bénéfice de cette nouvelle alliance. Merci pour la nouvelle vie dans ton esprit. Amen. Dans les trois parties de l'Église, des personnes du conseil pastoral au service cette année également vont m'aider à distribuer les éléments de la scène. Sur les plateaux, il y a des godets. Au milieu, il y a le jus de raisin au centre et autour, il y a les godets de vin. Également, pour ceux qui souhaiteraient plutôt la coupe, eh bien, les deux pasteurs nous viendront vers ceux qui lèvent la main pour souhaiter plutôt le prendre de la coupe. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi », a dit Jésus. Ainsi que tous ceux qui reconnaissent en Jésus de Nazareth, le Sauveur du monde, le Messie, viennent à lui et partagent la scène. Venez, car tout est prêt.
Merci au groupe de louanges. On a un petit moment de nouvelles avec Cédric et Gaël. Chanson, si vous pouvez vous avancer.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Le reste de ma famille arrive. Gaël a été chercher Mathieu au pote du dimanche. Merci de nous accueillir. Certains d'entre vous nous connaissent depuis la naissance ou quasiment. Depuis longtemps, puisque moi j'ai grandi ici dans cette église. Certains d'entre vous ne me connaissent pas, ne nous connaissent pas. Mais on a beaucoup de liens qu'on aime maintenir avec cette église. Merci pour votre accompagnement durant l'année écoulée, puisque depuis une année, nous vivons et travaillons en Guinée-Conakry, en Afrique, dans un projet missionnaire et un projet en lien avec l'Église. Votre pasteur Philippe parlait d'Église universelle et d'Église locale, alors on est un petit peu au service de cette Église universelle, puisqu'on est ailleurs, et puis en même temps d'une Église locale dans laquelle on s'engage à différents niveaux. Voilà le reste de la famille, Gaël, Lélia et Mathieu. Voilà. Et on s'engage donc en lien avec l'Église dans toutes sortes de domaines, c'est assez varié. Mais pour vous donner un petit aperçu, on a tout un secteur de notre activité qui est dans le cadre de la formation, et notamment la formation théologique pour les futurs pasteurs, mais aussi la formation dans l'Église, et puis, enfin, quand je dis l'Église, c'est en fait plusieurs églises au niveau national, aussi l'encouragement, le soutien, le renforcement de compétences des leaders et des pasteurs de l'Église protestante évangélique de Guinée. Et puis, on s'investit plus particulièrement dans le ministère de l'enfance, pour là aussi stimuler, encourager le responsable national pour l'enfance, aussi dans le département couple, famille, qui inclut aussi tout le domaine de la lutte contre l'excision, qui est un gros défi, un gros problème en Guinée. Donc là, il y a tout un travail que l'Église fait aussi très concrètement pour s'opposer à ces pratiques au nom de l'Évangile et puis aussi de sensibilisation. Et on commence à voir un peu des résultats dans ce domaine-là, et on en est très reconnaissant. Et puis on s'engage aussi, et ça c'est plus particulièrement Gaël, dans le domaine du développement pour l'autonomisation, notamment des femmes au travers de projets d'épargne, de micro-entreprises, etc. Voilà, on a fait une année, beaucoup de choses, et en même temps on en est un peu au début, et en même temps on est reconnaissant à Dieu de nous avoir accompagnés dans beaucoup de projets, de défis aussi. Et puis je vais passer la parole à Gaëlle pour quelques mots plus personnels de ce qu'on vit en famille.
Bonjour. Voilà, c'est vrai qu'une année c'est court et long à la fois. On a eu le temps de vivre beaucoup de choses. Ça a été une année avec beaucoup de défis pour notre famille. Vous imaginez bien que partir les quatre, c'est à peu près pile une année, je crois qu'on était là en disant voilà, on s'apprête à sauter dans l'inconnu, on a fait le pas. Ça a été une année avec pas mal de défis pour notre famille, de s'adapter à une culture qui est bien différente de celle qu'on connaît. Des défis aussi au niveau de la santé, surtout pour les enfants qui ont les deux eu passablement de soucis de santé, mais ils sont là, vous les voyez, en bonne santé, ils vont tout bien maintenant, et on remercie Dieu aussi d'avoir pris soin d'eux. Des défis aussi pour vivre, apprendre à vivre dans un pays qui est non seulement différent, mais avec une réalité qui n'est pas toujours très simple. Donc voilà. Et en même temps, on peut vraiment témoigner que Dieu est fidèle. Et que ça, même si ça n'a pas été une année facile, ça a été une année avec Dieu, et on a vu la fidélité de Dieu, et on le remercie vraiment pour ça. Et on peut témoigner de ça, que Dieu, quand il nous pousse hors de notre zone de confort, en même temps, il fait le pas avec nous, et puis on ne vit pas tout ça tout seul. Donc on est vraiment reconnaissant pour ça. Alors les enfants, on réfléchissait un petit peu, ça c'est même déjà quand on venait il y a quelques semaines pour aller prendre l'avion, on se disait quel est le bilan un petit peu de cette année. Et puis, donc je vais leur reposer des questions dont on a discuté ensemble. Je ne sais pas s'il y a un autre micro qui marche. Une chose chacun qu'ils aiment en Guinée. Lélia, une chose que tu aimes.
Moi, j'aime bien me faire coudre des habits.
Parce qu'il y a plein de beaux tissus et on n'a jamais eu ce privilège de pouvoir choisir quel habit on va se faire coudre. Mathieu.
Et moi, j'aime bien me faire inviter à manger chez les gens.
Parce que la culture est très accueillante et les gens, s'ils sont en train de manger comme ils mangent dehors, ils vont toujours nous inviter à manger. À manger quoi ?
Le riz.
Le riz. Donc c'est très souvent que Mathieu, quand il arrive pour manger, il nous dit qu'il n'a pas très faim, parce qu'il se fait toujours inviter pour partager le plat de riz. Donc, une chose dont vous êtes fiers, en vous disant « Waouh, je suis fière pour cette année », c'est quoi ?
Moi, je suis très fière de notre intégration là-bas.
Et moi, je suis fière de ma famille, franchement.
C'est vrai qu'on se disait qu'on était fiers quand même d'avoir réussi à vivre tout cela. Et puis, une chose que vous avez appris pendant cette année.
Moi, j'ai appris la patience avec les gens et aussi avec Dieu.
Quoi, par exemple ? Pourquoi ?
Par exemple, d'apprendre à prier. Et puis, même si il ne répond pas tout de suite aux prières, il finit souvent par le faire.
Et moi, j'ai appris au changement de dernière minute.
À être souple, hein, à s'adapter au changement de programme, à ne pas savoir ce qui nous attend dans la journée. Donc voilà, c'est pour dire que, comme on disait, même s'il y a des défis, on n'est pas malheureux. C'est un défi aussi à l'idée de repartir, mais on se réjouit aussi de compter sur Dieu. Et puis voilà, on est encore là quelques jours. On repart le 12 septembre. Merci aussi pour tous ceux parmi vous, c'est sûr qu'on connaît quand même pas tout le monde ici, mais un certain nombre de personnes, et merci pour tous ceux qui nous font signe, ou bien même sans nous faire signe, pensent à nous et prient pour nous. On a souvent des gens qui disent on fait pas signe, mais on pense souvent à vous, on prie pour vous, on réalise à quel point c'est important et précieux les prières, et on l'a aussi expérimenté cette année.
C'est vrai, merci. On sent et on a besoin de votre soutien aussi. Comme Gaëlle le disait dans la prière, c'est bon d'avoir cette communauté dont on entendait parler aujourd'hui, de chrétiens, de frères et sœurs, qui quelque part partent un petit peu avec nous. Donc merci. Priez particulièrement, Gaëlle l'a dit, on repart le 12 pour non seulement notre voyage, que ça se passe bien, L'avion, c'est facile, c'est après que ça se corse un petit peu, les 12 à 17 heures de voyage sur des mauvaises routes pour arriver jusque chez nous. Et puis surtout que notre cœur voyage aussi. Le cœur voyage beaucoup moins vite que le corps et on a besoin de vos prières particulièrement pour cette réadaptation, réacclimatation dans un environnement complètement... tout est différent en fait. Donc on a besoin aussi de vos prières particulièrement pour cela. Voilà, on ne va pas faire plus long, mais on est encore là tout à l'heure pendant un petit moment après le culte. Si vous voulez parler avec nous, on se fera une joie de vous donner quelques précisions, détails. Si vous voulez recevoir nos nouvelles, on peut prendre vos coordonnées, etc. Donc merci pour votre accueil encore ce matin.
Voilà, alors Philippe, tu peux me rejoindre parce que ça va être le temps des annonces. Il faut qu'on commence à se grouiller, on a dépassé de 8 minutes. Et pendant les annonces, on va passer au temps de l'offrande simultanément. Un mot important pour l'offrande, cette église vit uniquement par les dons. C'est super important. Mais c'est aussi super important que chacun donne ce qu'il a à cœur de donner. Et puis ici, un jour, tu ne peux pas donner. C'est une année, tu ne peux pas donner. C'est aussi ça, l'Église. C'est aussi ça, le corps du Christ. C'est qu'on se tient les coudes entre nous. On est solidaires, chacun de la manière qu'il peut. Donc, ça se fait, l'offrande se fait vraiment dans une absolue liberté et sans contrainte. Et puis, j'ai aussi une très bonne nouvelle par rapport à l'offrande. Si jamais... vous ouvrez votre porte-monnaie puis vous dites « Mince, ce fameux billet de 200 francs que je voulais mettre, je l'ai oublié encore une fois à la maison. » Rien n'est perdu, juste en sortant avant le porche, sur la gauche, le dernier truc que vous voyez, c'est des machins comme ça qui sont posés dans un petit présentoir, c'est des bulletins de versement. Et de surcroît, vous pouvez déduire ça de vos impôts, donc profitez, il y a de la place pour accueillir vos fonds. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc j'ai juste besoin d'un coup de pouce pour faire passer les pochettes, s'il vous plaît. Et puis, je cède le micro à Philippe.
Merci pour l'exemple. Nous avons quelques annonces en ces temps de rentrée. Alors, la plupart des annonces vont défiler dès le début du culte et puis en fin de culte pour les annonces courantes et puis celles qui sont un peu plus exceptionnelles, nous allons les faire oralement. Est-ce que Lauriane est déjà là ? Lauriane, viens nous parler de cette formidable journée vide dressing, brocante.
Avec le groupe de jeunes, on prévoit de partir faire un voyage humanitaire l'an prochain. On ne sait pas encore exactement où parce qu'on attend quelques réponses, mais du coup, on aimerait récolter de l'argent parce que ce n'est pas gratuit. Alors, on organise une brocante, enfin un vide-grenier sur le flyer. J'ai mis des flyers à la sortie. On a mis vide-dressing parce qu'on a aussi pas mal de vêtements. Donc, c'est le samedi 14 septembre, c'est entre 13h et 19h. Donc si vous voulez nous soutenir, vous pouvez volontiers passer ce samedi-là. Et puis vous pouvez aussi, si vous avez des vêtements à donner ou des objets, des livres, des jeux, volontiers aussi si vous voulez nous en donner. Vous pouvez les mettre dans la salle du groupe de jeunes et puis peut-être juste mettre votre nom pour qu'on sache qui sont les généreuses personnes. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me voir ou Charline qui est là aussi. Et voilà, les choses qu'on n'aura pas vendues, on va aussi les donner plus loin après à des autres personnes qui ont besoin. Et puis, voilà.
Merci, samedi 14 décembre, vide dressing. Septembre, j'ai dit décembre. Oh purée, j'aime tellement Noël. Tout de suite après le culte, nous aurons un apéritif qui a été préparé par Claire-Lise et Michel Serex, merci. Et puis un repas fraternel, n'hésitez donc pas à rester pour ce repas canadien. Je dois encore vous dire que le caté reprend le samedi 13 septembre de 19 à 21h pour les 11-15 ans. On va vivre une super saison avec Jean-Yves et Charline et moi. Vous connaissez des jeunes entre 11 et 15 ans, ou vous les jeunes qui avez des copains, des copines qui voudraient intégrer l'équipe KT, eh ben bienvenue, il y a de la place, on va se faire une super saison. Une dernière annonce, en tout cas pour ce qui me concerne.
Ça touche aussi la jeunesse, donc voilà. Donc c'est le vendredi 13, hein, pas le samedi 13. Ouais.
Non, vendredi 13.
C'est juste. Ce matin, on a vu plein de nouveaux enfants. Alors peut-être que c'est juste de passage. Si ce n'est pas juste de passage, c'est encore mieux. On tient des listes à jour pour pouvoir communiquer aux parents des événements comme des sorties des potes. Alors n'hésitez pas à aller vers Erissou ou vers un des moniteurs que vous avez vu ce matin pour communiquer les informations nécessaires pour qu'on puisse échanger des informations. Et puis, une autre chose, c'est qu'après la bénédiction, donc les enfants sont pris en charge, c'est bien aux parents d'aller les chercher pour décharger les moniteurs de leurs responsabilités. Merci.
Et puis, nous aurons aussi la joie de vivre un mariage le samedi 21 septembre. Je vais demander à Noémie et Jérémy de bien vouloir au moins se lever. Ils ne voulaient rien dire de plus, mais vous les voyez, ils sont beaux et ils resteront beaux longtemps. Samedi 21 septembre au temple de Satigny à 14h30 et chacun, chacune est invité. Peut-être si vous les voyez, dites-leur deux mots pour qu'ils vous comptent dans l'apéro, quoi. C'est un truc du style, hein. On se réjouit de vivre ce moment-là, vraiment.
Les groupes de maison, tu veux dire.
Et je prends une dernière fois la parole, après j'arrête de vous enquiquiner. Au niveau du conseil, on a à cœur de soutenir les initiatives au niveau des groupes de maisons. Il existe quelques groupes de maisons, des amis qui se retrouvent entre eux, en dehors des activités régulières de l'Église, où je pense que c'est assez fréquenté, full house pour le moment, pour ainsi dire, complet, quoi, en français courant. Et on aurait à cœur qu'on puisse s'accueillir les uns les autres et puis de relancer une certaine dynamique. Si l'idée d'un groupe de maison pendant la semaine vous parle, si vous avez soit un endroit à mettre à disposition, soit si vous seriez d'accord de temps en temps animer un de ces groupes, y amener une lecture biblique, à partager, etc., soit si vous souhaitez rejoindre l'un de ces groupes potentiellement, on aimerait bien faire la synthèse des ressources et souhaits, alors manifestez-vous s'il vous plaît auprès d'un des membres du conseil et puis on se fera un plaisir de vous donner un retour selon comment ça se concrétise. Voilà. Merci.
Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu et je fais appel ici à ces belles lignes de l'apôtre Paul en Éphésiens 3, verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Allez dans la paix, dans la joie, que le Seigneur soit votre force. Belle semaine.